Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Lors de notre dernier échange, nous avons essayé de faire une présentation, une sorte d'introduction au concile qui ont essayé de retrouver le bon milieu, comme tu le disais comme ça, hein, le bon milieu pour parler du Christ. Bon, tous ces conciles christologiques. Là, nous allons entrer peut-être dans le détail des articles du catéchisme. Et là, je prends le 468, le numéro 468. Je vais le lire. Après le concile de Chalcédoine, certains firent de la nature humaine du Christ une sorte de sujet personnel. Le cinquième concile écuménique à Constantinople en 553 a confessé contre eux « Il n'y a qu'une seule hypostase, ou on dirait personne, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, un de la Trinité. Tout dans l'humanité du Christ doit donc être attribué à sa personne divine, comme à son sujet propre, non seulement les miracles, mais aussi les souffrances et même la mort. Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et un de la Sainte Trinité. » Voilà ce que dit cet article 468. Certains firent de la nature humaine du Christ une sorte de sujet personnel. Alors, il y a peut-être du vocabulaire qu'il faut toujours se redire, hein, dans la citation du 5e concile écuménique, celui de Constantinople, donc 553. Nous avons dit l'autre jour qu'il y a eu beaucoup de conciles qui ont permis d'affirmer, de bien parler du Christ. Il n'y a qu'une seule hypostase, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, un de la Trinité.
Oui, c'est affirmer que dans la Trinité, il y a trois hypostases, trois personnes en acte, parce que le mot hypostase, si vous voulez, avait l'ambiguïté de pouvoir signifier soit la substance commune aux trois, comme à l'époque du concile de Nicée I en 325, soit déjà, dans un sens plus, je dirais, dynamique, l'hypostase en tant qu'acte. Et en Dieu, il n'y a bien sûr qu'un seul acte divin, mais il y a réellement trois hypostases, c'est-à-dire trois personnes en acte, qui sont en relation les unes avec les autres. Et ce sont ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont réellement Dieu et restent dans ces relations, dans tout ce qui se fait à l'extérieur de la Trinité, dépend de ces relations d'origine. Donc, quelle que soit la figure créée, quelle que soit la réalité créée, c'est toujours la Trinité qui œuvre, mais qui œuvre comme le Père engendre le Fils, et comme le Père et le Fils spirent ensemble le Saint-Esprit. Et c'est cela qui nous permet de comprendre le corps humain de Jésus, l'âme humaine créée de Jésus, qui sont le fruit de cette activité commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père engendrant le Fils, et le Père et le Fils soufflant le Saint-Esprit. Et toute l'humanité de Jésus est donc un instrument du Verbe, puisque le Verbe de Dieu a assumé personnellement cette humanité sans changer ce qu'il était. C'est ce que dit le très beau tropaire du numéro suivant: il resta ce qu'il était, il assuma ce qu'il n'était pas. Et ça, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à comprendre, et je vois que même des bons exégètes, quand ils écrivent des livres ou des dictionnaires, sont un peu trébuchants sur cette expression. Comment comprendre que avant l'incarnation, le Verbe est Verbe, et que après l'incarnation, le Verbe incarné ne change pas ce qu'il était comme Verbe? Vous voyez, ça pour nous, c'est une grosse difficulté à notre intelligence qui est toujours dans le créé, dans le temporel, et qui ne voit que la succession du temps. Alors, en fait, il faut hisser notre intelligence au-delà du temps, qui est une réalité créée. Et le Verbe, donc, reste ce qu'il était, tout en assumant dans le temps ce qui n'était pas. Et la liturgie romaine, vous voyez, le chante très bien dans ce numéro 469 qui le redit. De même, la liturgie de Saint Jean Chrysostome dit « Ô Fils unique et Verbe de Dieu, étant immortel, tu as daigné pour notre salut t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, qui sans changement est devenue homme. » Voilà, ce sans changement pour nous est très mystérieux. Vous voyez, le Verbe reste le Verbe, même en assumant la nature humaine. Ça ne le change pas dans ce qu'il est, dans son être profondément. Bon, c'est pour cela qu'à un moment, Jésus dit cette parole tout à fait stupéfiante que nous avons tous entendue dans l'évangile de Jean, et souvent les prédicateurs ont un petit peu de mal à rester dessus, à faire pause dessus, parce qu'elle est tellement élevée qu'on en a le vertige. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Vous tombez des nues quand vous pensez à Jésus né à Bethléem, né dans le temps. On se dit, mais comment a-t-il pu dire une parole comme cela? Et du coup, le prédicateur moyen saute facilement au-dessus de ce passage de Saint Jean et trouve une petite homélie morale à la place pour botter en touche, si vous voulez. Mais cette parole est prodigieuse. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, Jésus a affirmé son identité personnelle avant même son incarnation. Donc, il est le Verbe éternel depuis bien avant toute chose, donc avant la création du temps. Et il est le Verbe éternel du Père. Il est l'engendré du Père, le monogène, selon l'expression de l'évangile de Saint Jean.
On peut dire que, donc, si j'essaie de résumer ce que tu dis, le fait que Dieu se soit incarné ne change rien à Dieu.
Et voilà, le fait que Dieu se soit incarné ne change rien à Dieu en ce qu'il est, mais change évidemment l'économie du temps. Dès que je rentre dans l'économie du temps, alors évidemment ça change tout, parce que maintenant nous avons un sauveur, alors qu'avant nous étions esclaves, comme dit saint Paul, du péché, des conséquences du péché. Donc c'est une révolution pour l'économie du temps, mais en Dieu, rien ne peut changer, car il n'existe en lui, comme dit saint Jacques au chapitre 1, verset 17, aucune variation. Il est au-dessus, totalement immuable. La grande Élisabeth de la Trinité, sainte Élisabeth de la Trinité, aimait s'adresser à Dieu trinitaire en disant « Ô mon immuable ». Elle avait tout compris. C'est quand même admirable. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas nécessairement être un savant. La foi de la petite vieille, la Vétula, disait saint Thomas, suffit. On comprend que Dieu est au-dessus du créé, donc au-dessus du temps. Il le transcende. Et c'est une relation réelle, évidemment, de notre humanité vis-à-vis de Dieu, mais c'est une relation seulement de raison de Dieu à tout ce qui est créé, puisque Dieu le transcende totalement.
Tu disais que donc, Dieu ne change pas en s'incarnant, l'économie, en revanche, du temps change, mais son projet de salut ne change pas. Ça fait partie de...
Alors, son projet de salut ne change pas, et ce qui change, c'est ce qu'il veut qui soit changé au cours du temps, parce que Dieu, on ne lui impose rien, et comme il nous a laissé libres, il peut y avoir des variations qu'il veut lui-même, puisque autre chose est ne pas changer, et autre chose est, dans ce non-changement intrinsèque, vouloir qu'il y ait du changement. Ça fait partie aussi de la volonté de Dieu.
Alors, sur ces articles 468, 469, c'est vrai que elles sont magnifiques, ces hymnes ou ces tropères. Il resta ce qu'il était, il assuma ce qu'il n'était pas.
Oui.
C'est vrai que ça pose la question de la façon dont on prêche, pour ceux qui prêchent, dont les chrétiens vont parler du Christ, et en parler à un niveau qui reste trop mondain, j'allais dire, trop à échelle de ce qu'on croit pouvoir tenir dans notre appréhension, mettre Dieu dans notre poche, ce qui fait qu'effectivement, j'allais dire, on dénature Dieu d'une certaine façon.
Oui, on a toujours tendance évidemment à baisser le niveau. Je me souviens un jour, j'étais comme ça dans une église de banlieue de Montpellier. Et il y avait pas mal de musulmans autour. Et une dame venait d'arriver de Lyon et disait, oh, nous, la Trinité, que c'est compliqué. C'est tellement plus facile de dire seulement Dieu. Mais attention, à ce moment-là, est-ce qu'on est là pour dénaturer l'annonce, même si elle est exigeante, même si elle demande un niveau élevé, ou on se met au plus bas, le plus petit commun dénominateur pour faire bonne popote avec ceux qui nous entourent. Vous voyez le danger que l'on peut de baisser le niveau. Or, notre annonce est une révélation. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui allons donner la foi aux autres. C'est Dieu, c'est un cadeau. Donc, à partir du moment où je l'annonce, je sais que le Saint-Esprit travaille déjà dans le cœur de celui à qui je l'annonce. Et après, l'ouverture de son cœur ne dépend pas de moi. Moi, je suis là pour annoncer, disait Sainte Bernadette de Lourdes. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais pour vous faire croire.
Mais il est vrai que quand on voit 469, cette phrase, il est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait homme, notre frère, et cela sans cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Cette idée que certains se disent, mais je ne peux pas appréhender ce Jésus-Christ, Dieu fait homme, comme mon frère, si je vois derrière lui cette immensité de Dieu, ce Dieu éternel, je pense que pour eux, c'est pas si simple que ça dans l'appréhension. Qu'on peut avoir spontanément, il est notre frère.
Il est vraiment notre frère.
Autre, le tout autre et le non autre.
Il est en même temps le tout autre, exactement. Il faut tenir les deux. Et c'est toute la grandeur, je dirais, du mystère de l'incarnation qui est pour nous la pierre angulaire, finalement, de notre foi. Et d'où l'importance de réciter fréquemment le credo, cet acte de foi. Et le Verbe s'est fait chair et il s'est incarné parmi nous. Il a dressé sa tente parmi nous.
Oui. Merci, frère Édouard.
À bientôt.
À bientôt.